Retour sur les racines du reggae, sa philosophie, mais aussi sur sa posture alternative à la politique et à la religion. Comment la musique jamaïcaine raconte-t-elle l'histoire de son île? C'est ce soir, à partir de 21h.
France Inter. La différence.
Il est l'heure de retrouver Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis.
Salut Daniel, figure-toi que samedi prochain, là, celui qui vient, je vais fêter les 3 ans de mon fils. C'est génial vraiment les gamins à cet âge-là. Ils sont encore pleins d'innocence, pleins de naïveté. Ils croient encore au Père Noël, à la petite souris qui dépose la pièce quand on perd une dent, aux elfes, aux lutins, aux fées. Et puis quand ils sont passage, on peut les menacer de faire venir le monstre qui dort dans le sous-sol. Vraiment, c'est formidable. Ils croient en tout, c'est vraiment génial. Par contre, alors le mien ne crois pas une seule seconde que DSK soit de gauche. Finalement, la naïveté a peut-être ses limites. C'était Aurélien. Ciao.
Et salut à tous. Et voilà, ça y est. Le monde est imberbe. Complètement imberbe. Le dernier poilu a disparu. Au revoir.
Francis Hugues, 25 ans. Raymond McCresh, 24 ans. Patsy O'Hara, 23 ans. Joe McDonnell, 30 ans. Martin Urson, 29 ans. Kevin Lynch, 25 ans. Kevin Doherty, 25 ans. Thomas McElvey, 23 ans. Michael Devin, 25 ans. Bobby Sand, 27 ans. Tous sont morts. Et ne les oublions pas, il y a 30 ans mourait Bobby Sand après 66 jours de grève de la faim dans la prison de Long Kesh, dans l'intransigeance la plus totale de Margaret Thatcher qui incarnait le terrorisme d'État. Dominique Sudgironda.
Bonjour à tous. J'ai entre les mains un petit livre, petit par ses 30 pages, mais très grand par les écrits contenus. Ce petit livre a pour titre « Ben Laden, secret de famille de l'Amérique ». L'auteur, c'est Arundhati Roy, une femme de grande valeur. C'était édité par Gallimard en 2001 ou dans ces années-là. J'avais d'ailleurs entendu des comptes rendus par Daniel Mermet à cette époque. AMG, lisez-le et relisez-le ce petit livre. Monsieur Obama, lisez-le si vous en avez le courage, à moins qu'il ne soit toujours interdit aux USA. Merci à toute l'équipe de là-bas si j'y suis. Continuez de braver les tempêtes et bon courage.
Bonjour aux amis de là-bas si j'y suis. Voilà, j'avais appelé hier pour signaler l'occupation du 51 avenue Simon Bolivar par les Tunisiens qui étaient dans un premier temps réfugiés dans le parc de la Villette. Voilà, ben en ce moment, l'occupation semble terminée parce que la police est arrivée massivement pour évacuer les occupants. Voilà, il y a de très gros moyens ont été employés, garde mobile, hélicoptère, et on signale même que Claude Guéant est au commissariat du 19e. Voilà, donc les militants qui étaient restés dehors ont essayé de contenir un peu les gardes mobiles, mais il n'y a rien eu à faire, donc les portes ont été défoncées. Maintenant, les Tunisiens sont extraits du bâtiment et sont mis dans des paniers à salade. Voilà, on ne sait pas encore dans quel commissariat ils vont être envoyés. Donc restez vigilants et soutenez-les, s'il vous plaît. Merci, au revoir.
Oui, je viens d'entendre les gens qui plaignent, tous les gens qui viennent de Tunisie, tout ça. Et je me dis, tous ces Tunisiens qui fuient maintenant la démocratie, est-ce que ça ne serait pas des gens de la police de Ben Ali qui fuiraient les représailles? Dans ce cas-là, ça serait paradoxal que le peuple de gauche en France défende les anciens tortionnaires du peuple tunisien. Alors attention, peuple de gauche, réfléchis bien, te fais pas avoir.
Oui, bonjour Daniel, c'est une mamie de 82 ans qui est dans le Var. Et je vous remercie de laisser au moins un téléphone, parce que beaucoup d'émissions qui m'intéressent ne laissent aucun numéro de téléphone sauf Internet. Et je n'ai pas Internet. Je ne suis pas vieille France, mais un peu. Voilà, merci. J'écoute beaucoup vos émissions et je vous remercie. Au revoir.
D'étudiants libertins ou de bourgeois repus, le paix, même anodin, dilate le trou du cul. Vous m'avez reconnu, je suis le poète poussif, le gars qui pense au cul, qui est approximatif.
Le conseiller scientifique en sécurité nucléaire auprès du Premier ministre Naoto Kan a démissionné. Selon Toshiso Kosaka, le gouvernement a même, selon lui, ignoré ses conseils depuis sa nomination en tant que conseiller spécial du Premier ministre le 16 mars dernier. Il déclare « Cela n'a aucun sens que je reste à mon poste » au cours d'une conférence de presse, indiquant avoir remis sa lettre de démission. « Je ne peux m'empêcher de penser que le gouvernement ne prend que des mesures provisoires et retarde ainsi la résolution de cette crise nucléaire », a-t-il ajouté. On n'est pas sorti de l'auberge.
Quelques nouvelles du Japon après Fukushima. Le gouvernement japonais a annoncé un assouplissement de la dose limite annuelle de radiation pour les enfants des écoles. Cette dose est multipliée par 20. Elle passe de 1 millisievert à 20 millisieverts par an. Le gouvernement justifie cette mesure par la nécessité de laisser les enfants jouer à l'extérieur dans les zones non évacuées, mais contaminées. Je suis vraiment curieux de savoir ce que pense l'Organisation mondiale de la santé de cette mesure. J'espère qu'elle va arrêter son silence complice, comme ce silence qui dure depuis des années par rapport à Tchernobyl. Et j'en profite pour saluer les vigies qui, depuis plusieurs années, campent devant l'Organisation mondiale de la santé pour dénoncer l'accord entre l'OMS et l'Agence internationale à l'énergie atomique. Donc l'OMS, qui est censée soigner les gens, est complice d'un vendeur de nucléaire. Au revoir.
Merci pour ces messages, chers AMG, surtout ces messages qui concernent le nucléaire, puisque aujourd'hui, dans la suite de reportages que nous vous proposons au Japon, nous approchons précisément de cette centrale de Fukushima. On va s'arrêter dans un village, un gros village de 6000 habitants qui s'appelle Hidate, au moment même où le maire de ce village annonce aux habitants incrédules et hébétés qu'il va falloir évacuer le village. Et c'est un village auquel ils tiennent beaucoup, depuis longtemps, depuis plusieurs générations. Ils y vivent, ils y travaillent, ils font pousser des fruits, ils font de l'élevage. Ils sont très fiers de leur village, qui est un endroit effectivement très beau, même touristique. Et c'est cette scène à laquelle nous avons et nous allons assister ensemble, simplement pour comprendre ce que c'est que le nucléaire pour des gens tout simples. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait le nucléaire? Hors des grandes angoisses, des grandes inquiétudes, des grandes images extrêmement violentes et poignantes, mais dans la vie quotidienne, comment ça se passe? Cette peur très particulière, pas d'odeur, aucun signe, rien de particulier, rien, et la peur, seulement la peur, la peur nue, enveloppée d'une angoisse nue, on pourrait dire, et que nous avons partagé quelques instants prudemment, évidemment, avec les habitants de cette petite ville. C'est notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, bonjour à tous les AMG. Ici le repère d'Aix-les-Milles, à côté d'Aix-en-Provence. Jeudi 5 mai à 19h, au Café de France, 16 avenue Roger Chaudon, Robert Mancherini interviendra sur le thème de la résistance et de l'occupation en Provence. Il nous parlera longuement du camp des Milles qui se situe à moins d'un kilomètre du repère. Robert Mancherini fait partie des nombreux intervenants qui seront les 14 et 15 mai au plateau d'Aiglières. Retrouvons-nous ce jeudi 5 mai à 19h au repère d'Aix-les-Milles situé 16 avenue Roger Chaudon. Bonne journée à tous.
L'amour à la robote. Un homme écrit à la machine une lettre d'amour. Et la machine répond à l'homme et à la main et à la place de la destinataire. Elle est tellement perfectionnée, la machine. La machine a lavé les chèques et les lettres d'amour. Et l'homme, confortablement installé dans sa machine à habiter, lit à la machine à lire la réponse de la machine à écrire. Et dans sa machine à rêver, avec sa machine à calculer, il achète une machine à faire l'amour. Et dans sa machine à réaliser les rêves, il fait l'amour à la machine à écrire, à la machine à faire l'amour. Et la machine le trompe avec un machin à mourir de rire. Jacques Prévert, Anne Bourget dans le Maine-et-Loire.
Oui, bonjour, je suis à Arras, dans un petit bistrot. Je viens de voir un nouveau lecteur du monde diplomatique. Et j'en suis bien content. Allez, salut Daniel, ciao.
Amis du Café Repère d'Alban, ce jeudi 5 mai à 20h30 au bar chez Marco, nous aborderons le sujet des nanotechnologies. La nanotechnologie, les définitions, applications, utilisation médicale, militaire, les risques, les dangers. Nous comptons sur chacun, chacune pour amener son savoir, ses connaissances, ses questions et pourquoi pas ses réponses. À ce soir, amis modestes et géniaux.
Oui, bonjour, ici Boris Maxence, c'est pour vous annoncer un repère là-bas, si j'y suis, à Longwy, au café L'Appartement, place d'Arche à Longwyo, le jeudi 5 mai de 19 à 21h. Et pour ceux qui le souhaitent, on ira manger un bout ensemble. Alors si vous voulez refaire le monde avec nous à Longwy, ville de lutte, ben, retrouvez-nous, c'est tous les premiers jeudis du mois, sauf quand il y a des jours fériés. Donc ça sera le 9 juin, le suivant. On se retrouve jeudi 5. Au revoir.
Ça y est, moi aussi je suis comme n'importe quel japonais, j'ai un masque blanc sur le nez et sur la bouche. Pourquoi donc ? Parce que là, on est dans un périmètre de combien ? 50 km par rapport à la centrale, et c'est quand même plus prudent de prendre quelques précautions. On est dans un paysage très beau, de fin d'hiver, magnifique. On a traversé des endroits où on fait des arbres fruitiers magnifiques. On fait des pommes, tout un tas de fruits superbes. C'est la spécialité du coin. Voilà des rizières là, dans des endroits très beaux, très très beaux, très très beaux. Sauf que cette région risque d'être considérée comme irradiée. On a demandé déjà aux paysans de ne pas semer. Et voilà, on est dans cette peur, cette terreur très particulière qui est on voit rien, on ne sent rien, on ne sait rien. Et c'est tout ça qui produit une peur qui vous gagne peu à peu et qui est celle des gens aussi du coin. Alors par ici, il n'y a plus un chat, il n'y a plus personne. On commence à être dans un no man's land, 20 km autour de la centrale, les personnes qui vivaient là ont été évacuées. De 20 à 30 km autour de la centrale, on est autorisé à y rester, hein, c'est ça, à condition de se calfeutrer chez soi. Et au-delà de 30 km, on considère qu'il n'y a plus de problème. Ce qui n'est pas du tout l'analyse que fait une organisation comme Greenpeace, par exemple, qui considère que c'est 40 km. Et les autorités sanitaires des États-Unis, elles considèrent que c'est 80 km autour de la centrale. Ça, en soi, déjà, c'est tout à fait inquiétant. Et ça montre que la vie des gens est beaucoup moins importante que l'industrie nucléaire et que le lobby nucléaire. Donc voilà où on est, sur une route un peu plus importante. Une petite ville, on voit pas tellement... Il y a un très beau cimetière ici, mais on voit pas tellement âmes qui vivent. Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base où j'y suis avec Guy Ventil et Atsuko Ushioda, Fukushima, Hiroshima, dans un Japon qui doute.
Quand on va arriver à la mairie de Hidate.
Hidate. Tu connais ce village, toi ?
C'est un petit village de paysans, enfin, c'est un petit village agricole.
Et là, ils sont en colère ?
Ils sont en colère parce qu'en fait, ils n'ont jamais été pour la construction de centrales et que c'est eux qui subissent la conséquence. Comme ils sont loin de centrales, ils n'ont pas touché l'argent de centrales.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'argent de la centrale, ça veut dire que la centrale soutient et arrose toutes les communes alentour. Mais pas toutes. Et celle-ci n'a pas été arrosée, alors, si je comprends bien. Parce qu'elle est en plein en dehors du périmètre.
Oui, oui, parce que nous sommes maintenant à 35 km.
Alors, eux vont subir les inconvénients, mais sans avoir eu auparavant les soutiens.
C'est ça, exactement.
Les médias sont partis, mais c'est pas fini. Des ouvriers, ce jeudi, sont pénétrés dans le bâtiment du réacteur numéro 1 de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi pour la première fois depuis l'explosion survenue au lendemain du tsunami du 11 mars. Voilà ce qu'a annoncé l'opérateur japonais de la centrale. Deux ouvriers munis de combinaisons de protection et de bouteilles d'oxygène ont pénétré dans le bâtiment dans le cadre d'une opération visant à mettre en place un système de ventilation pour y faire baisser le niveau de radioactivité. C'est la première fois que nos employés pénètrent dans le bâtiment du réacteur depuis l'explosion, ont précisé les autorités. Nous envoyons les travailleurs par petits groupes pendant une durée maximum de 10 minutes pour limiter la durée d'exposition aux radiations, toujours selon les responsables. Alors voilà des nouvelles récentes et très inquiétantes parce que ça s'est passé le 11 mars et nous sommes le 6 mai. Là, ces informations sont données par TEPCO. TEPCO, qui est l'opérateur électrique, électricien comme on dit, et propriétaire de cette centrale, qui a beaucoup menti aux Japonais et au monde entier, parce que c'est des choses qui concernent le monde entier. Mais ces gens-là sont contrôlés, une telle entreprise est contrôlée par l'Agence japonaise de sûreté nucléaire, AJSN, qui contrôle TEPCO. Et il y a aussi, très important, la représentation de l'État à travers MECI, M-E-C-I, ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie. Voilà, une entreprise, un contrôle et l'État. Sauf que, hélas, tous ces pouvoirs sont confondus. Les gens qui travaillent au ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie vont très facilement travailler chez TEPCO et ainsi de suite. On va s'échanger. Et puis surtout, il n'y a aucune étanchéité entre ce ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie et l'Agence japonaise de sûreté nucléaire. Voilà ce que les Japonais ont découvert, non, ils le savent depuis fort longtemps, sauf que là, eh bien, c'est leur vie qui est en jeu, c'est leur pays qui est en jeu, c'est leur réputation, leur image dans le monde qui est en jeu, et les Japonais commencent très sérieusement à douter de la validité du nucléaire dans leur pays, du système politique et économique si étroitement emboîté qui domine leur pays. Et ça, on va le voir à travers cet endroit où nous venons d'arriver, qui s'appelle Hidate, donc très très joli petit village, 6000 habitants, touristique, vert, très fier des efforts qui ont été faits, de la tradition. Et on va entrer dans la mairie, de cette petite région au moment même où le maire annonce à un certain nombre d'entrepreneurs qui sont là, de paysans, d'agriculteurs, de petits entrepreneurs, qu'il va falloir évacuer, il va falloir quitter Hidaté. C'est notre sujet du jour jusqu'à 16h, la base du
東京電力福島第一発電所の3号機は14日午前11時1分水素爆発を起こし原子炉建屋が吹き飛びました。
L'explosion était attendue, France 3, elle a bien eu lieu et l'image est spectaculaire.
14 mars 2011.
Il est 11h01 ce matin au Japon, 3h01 en France. Le bâtiment qui enveloppe le réacteur numéro 3 de la centrale de Fukushima est soufflé. 6 personnes ont été blessées. L'enceinte extérieure a été soufflée. Mais le cœur du réacteur numéro 3 est intact selon le gouvernement. Il exclut un nouveau Tchernobyl. Une explosion similaire s'était déjà produite samedi, détruisant le bâtiment du réacteur numéro 1. Les habitants sont invités à rester chez eux.
Nous avions demandé aux habitants d'évacuer les lieux dans un rayon de 20 km autour de la centrale.
Yukio Edano, porte-parole du gouvernement japonais.
Ceux qui ne l'ont pas fait doivent immédiatement regagner leurs habitations et rester à l'intérieur.
Plusieurs explosions en 3 jours et beaucoup d'interrogations sur la menace nucléaire. Le monde entier a les yeux rivés sur Fukushima.
Là, mais c'est surtout un exposé du maire et des autorités de ce village envers les adressés aux habitants et notamment à des paysans, des agriculteurs, des entrepreneurs. Les médias sont là, les caméras sont là, il y a une très grande tension et le maire prend la parole.
Oui, donc à la 1h30 là maintenant, monsieur le maire du village, va faire une conférence pour les coopératives agricoles et des entrepreneurs de village. Ah, ça commence. Aujourd'hui, nous sommes le 11 avril, juste un mois après le tremblement de terre. Notre village était épargné de tremblements de terre, mais l'accident de centrale a provoqué une évacuation aux alentours de 20 km. Mais la zone d'évacuation s'est agrandie petit à petit et nous voici maintenant. Le gouvernement a annoncé un nouveau plan d'évacuation, qui est évacuation planifiée. Nous avons appris que notre eau de robinet n'est plus potable. Ainsi que nous avons appris que notre terre était contaminée. Maintenant, nous sommes victimes d'une rumeur comme quoi tout ce qui parvient de notre village est contaminé.
C'est-à-dire que dans la salle, devant nous, il y a des paysans,
il y a des agriculteurs de riz, de fruits, de légumes, de lait aussi. Et ces gens sont ruinés. Ils apprennent en ce moment leur ruine, que cette région est contaminée.
J'ai beaucoup de peine à vous annoncer, mais l'enjeu est énorme, l'enjeu économique et de santé, de l'avenir de nos enfants. En tant que maire du village, j'étais vraiment très tourmentée car l'enjeu est énorme. Est-ce qu'on doit abandonner notre terre? Est-ce que les enfants sont exposés à la radiation? Mais l'enjeu est énorme. Et là-dessus, très récemment, je crois que c'était hier, le gouvernement a annoncé d'évacuation planifiée. C'est un nouveau terme que je vais vous expliquer maintenant.
C'est impressionnant de voir que les caméras qui sont là, elles sont en train de détourner le regard du maire qui fait son discours pour saisir le visage des agriculteurs qui sont en train d'apprendre que leur monde s'effondre.
Parce que l'endroit où nous allons partir, nous allons nous installer maintenant, ne promet pas un métier, un terrain pour y habiter longtemps, pour trouver un nouveau travail. Je vais expliquer le plan d'évacuation.
Alors, il y a une carte qui est donné à chacun. Le bruit de feuilles qu'on entend, c'est le bruit de toutes ces cartes qui sont là. Et c'est pas compliqué. Ça fait comme une sorte de demi-cercle dont le centre est la centrale elle-même. Et là, on est en train d'expliquer qu'il va falloir aller au-delà. Il va falloir se déplacer. Parce que là, la radiation augmente et s'étend.
Et l'accident de centrale n'est pas encore terminé, n'est pas encore résolu. Il faut encore plusieurs mois pour que centrale finisse à dégager la radioactivité. Donc les zones d'évacuation planifiées, c'est la zone où le taux de radioactivité atteint 1 millisievert par an. Mais nous sommes dedans, donc on peut rester que pendant 8 heures par jour dans ce village.
Ici.
Ouais.
Désormais, on ne peut rester que 8 heures par jour dans ce village.
Ouais.
On assiste à la fin d'un village, à la fin d'une région, à la fin d'une civilisation d'une région. Et des scènes comme celle-là, il y a eu beaucoup d'autres. Au Japon, autour de la centrale de Fukushima, d'abord autour sur la ceinture des 20 km dont les habitants ont été évacués, puis des 30 km, et là on arrive à 40 km où l'eau du robinet n'est plus potable, la terre est contaminée, et puis il y a la réputation aussitôt du village qui est stigmatisé. Et non seulement les produits provenant de ce village, de cette région, mais les habitants eux-mêmes, ils se sentent, ils savent très bien ce qui va leur arriver, c'est qu'ils vont être proscrits. Et c'est là qu'on comprend une vieille expression pestiférée. Ça nous renvoie à ces vieilles expressions comme un pestiféré. Et bien, non seulement ils perdent tout, mais ils se sentent devenus, là, en quelques instants, des pestiférés. Des questions arrivent.
ご質問を受けたいと思います。どうでしょうか。ご質問あれば。
Nouvellement, si vous avez des questions.
Quelqu'un pose une question dans la salle.
Le gouvernement a dit un mois d'évacuation, mais c'est sûr que c'est un mois. Tant qu'on ne sait pas combien de temps on doit être loin de village, oui. C'est pas la même préparation des déménagements, vous comprenez? Est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est plusieurs années? C'est pas la même chose. Et le maire répond, on ne sait pas. Nous sommes le village de 6000 habitants et c'est vrai qu'on n'a même pas proposition de l'endroit où on va être. Si je déménage, j'aimerais être avec mes voisins, avec mon bourg entier. Et le maire répond, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça va se passer. Nous sommes dans la certitude totale.
Il y a beaucoup de questions, hein, beaucoup de bras se lèvent à chaque fois. On demande si il y a des questions.
Je suis entrepreneur, j'ai une usine, j'ai mes employés. Tant que l'État ne promet pas de dédommager, je ne partirai pas.
Mais c'est quoi son choix? C'est de mourir ici. Refuser de partir, c'est accepter de se retrouver irradié.
Oui, mais accepter de partir, c'est de se trouver en chômage avec ses employés. Je sais, le maire, bon, je suis conscient, je vais négocier, vous allez voir, je vais négocier avec l'État pour indemnité.
Une question dans le public.
Je suis entrepreneur ici. Et un mois après, pourquoi vous dites maintenant qu'il faut partir? Et que partir pour moi, c'est la fin de travail, fin d'entreprise?
C'est la fin de l'entreprise, c'est ça? Ben oui, bien sûr. Et tous les autres, c'est là, ils sont dans la même situation.
Je suis conscient de vos tourments, mais nous-mêmes, nous n'arrivons pas à prendre une décision. Parce qu'on tient à la santé de nos enfants, mais aussi nos travails, nos terres.
Une autre question.
Notre personne qui a posé la question, moi je ne suis pas agriculteur, je travaille dans un bureau, est-ce que je peux continuer? Parce que ça n'a rien à voir, je ne suis pas exposé à l'extérieur en fait. Est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce que je peux rester? Je sais, monsieur le maire, que votre tâche n'est pas facile, mais il est dans l'arbre.
C'est cet homme qui tombe en larmes. Une nouvelle question est posée.
Oui, j'ai compris. Mais bon, un jour, on va revenir. Mais le nom de Hidati me l'a désormais connu par sa beauté, par son tourisme, par l'activité culturelle. Notre nom est sali pour toujours.
Hidati.
Maintenant, nous sommes connus par la radioactivité. Et comment on peut repartir à Hidate après?
La mère dit, je ne peux pas répondre.
C'est vrai que le nom de leur village est lié maintenant avec la radioactivité.
風の中目を染めて映画の中に映る場面のような照らす光はなくぼんやり淡く できすぎの姿に憧れもなくバカな話の中すれ違う夜冷えた手を握って息もしよくて影は語らずにやがて
その辺は事前に発表する前に、セキュリア
の、
Tu me montres la carte ?
Oui, oui, parce que jusqu'à là, c'était vraiment un périmètre de 20 km qui était interdit. Mais ils ont découvert que ce périmètre qui est tracé par compas n'est pas exact.
Et, ah oui, je comprends.
Et c'est pour ça, là, navigation d'évacuation et... Et dedans, il y a notre village Idatemula. C'est ça.
D'accord, oui, c'est pas géométrique. C'est pas géométrique, bien évidemment, puisqu'il y a des obstacles. Il y a toute une géographie.
Voilà, on est à Idate, je le rappelle, dans cette salle de la mairie de ce village de 6000 habitants, une très jolie région. Et le maire est en train d'apprendre à des petits entrepreneurs, paysans, agriculteurs et à la population, en présence des médias du Japon, en train de leur apprendre qu'il va falloir évacuer ce village dans lequel ils habitent depuis plusieurs générations, parce que la terre est contaminée, parce que l'eau n'est plus potable, parce que le taux de radioactivité augmente et menace tout simplement la vie. Il est conseillé de ne pas résider dans ce village plus de 8 heures par jour, et ce temps va aller en se réduisant. Le lobby nucléaire japonais, on a beaucoup dit, oh, il y a des grandes différences culturelles entre les Japonais et nous, oh, sans doute. Mais enfin, il y a quelque chose qui nous rapproche tout à fait, c'est le lobby nucléaire. Le lobby nucléaire japonais fonctionne exactement comme le nôtre, avec la même emprise sur les pouvoirs publics, sur les élus, et puis cette imperturbable arrogance des experts. Et les amis japonais disent, oui, ça c'est le village. Et ce qu'ils appellent le village, eh bien c'est ce que j'essayais de décrire en commençant, c'est-à-dire l'entreprise d'électricité, celle de cette région, c'est TEPCO, je le rappelle. Voilà une partie du village. Une autre partie du village, c'est l'agence de sûreté nucléaire qui marche main dans la main avec TEPCO. Et puis, le fameux MESI, le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie japonais, qui est extrêmement puissant. On peut dire que c'est vraiment le pouvoir japonais. Le Japon est un géant économique et un nain politique. Et c'est ça le village. Et c'est ça l'arrogance. Et c'est ça le vrai pouvoir du Japon, et en l'occurrence le pouvoir nucléaire. Et c'est ce pouvoir-là dont les Japonais commencent à douter. Au moins ceux qui sont dans cette salle.
Nous sommes tous très très liés à notre terre depuis des générations. Et si on quitte ici, c'est la fin du travail, c'est la fin de notre vie. Et que les autres villages qui restent vont nous mépriser.
Une autre question.
Vous ne répondez jamais, il s'adresse au maire. Ne répondez jamais, ni oui ni non, vous ne savez rien.
La colère monte un peu dans la salle. Petit à petit, de question en question, ça monte.
Vous êtes faible devant l'État.
Et
je sais tout ça, votre vie, votre travail, je sais.
Le maire se lève.
C'est hier, le gouvernement a annoncé l'évacuation. Je ne sais pas comment vous exprimer. Simplement, je voulais vous tenir au courant avant que vous appreniez cette évacuation par les
médias.
Oui, je ne sais pas si c'était bénéfique de vous avoir réunis aujourd'hui, mais sachez que notre cœur est avec vous.
Quand on en est au cœur, c'est mauvais. C'est que c'est cuit.
Simplement, je suis avec vous, nous sommes avec vous, ayez confiance que nous restons en contact.
Fin de la séance, on vient d'assister à un moment historique. Historique non seulement pour ces petits entrepreneurs qui sont là, petits moyens entrepreneurs, qui viennent d'apprendre qu'ils doivent évacuer, que le village, ce village de 6000 habitants, doit être évacué. Alors, il y a quelque chose qui doit vous toucher beaucoup, c'est la voix de notre traductrice, Atsuko. Parce que c'est une traductrice et c'est une amie, mais là, ce qui se passe là, ça s'entend, la touche très très profondément. La différence qu'il y a entre Atsuko et nous, c'est qu'elle est japonaise, c'est que c'est son pays, c'est des régions qu'elle connaît et qu'elle aime, et elle aussi découvre cette réalité, cette impalpable terreur qu'est celle de la radioactivité. Et le maire est parti, blême, impavide, refusant de répondre à toutes les questions. Et dans le hall de cette mairie, les habitants sont là, les petits paysans, les entrepreneurs sont là et répondent aux questions des journalistes. On a l'impression qu'on vient d'apprendre la mort de votre village.
Oui, ce sera la mort si le gouvernement affirme l'ordre de départ.
Mais comment vous pouvez résister? C'est soit la mort du village si vous partez, mais c'est aussi la mort du village si vous restez. Si le village doit être irradié, ce n'est pas une solution non plus.
Mais 5.1 microsievert de Mais vous entendez tous les jours dans les médias qu'il n'y a pas de problème de santé avec 5 millisieverts.
Alors pourquoi est-ce que le gouvernement veut que vous partiez ?
C'est pour ça ma question tout à l'heure. Vous avez entendu, c'est tous les jours le département annonce le chiffre de cyber. Eh bien, avec ça, le média dit qu'il n'y a pas de danger.
Arigato, arigato.
Incrédulité, résistance impossible. L'ordre d'évacuer vient du gouvernement, mais c'est un ordre que le gouvernement ne peut pas ne pas donner, bien évidemment. La contamination gagne, elle s'étend aujourd'hui à 50 ou 60 kilomètres autour de la centrale, et on le disait en commencement, énormément de rejets en mer et toujours... incontrôlés. D'autres habitants répondent aux journalistes.
Est-ce que vous êtes prêt à déménager ? Vous êtes prêt à partir, vous ? Vous êtes prêt à être évacué ?
Non.
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 Pourquoi non ? Mais c'est dangereux de rester.
On me dit qu'il faut 30 ans pour que le cancer se provoque.
Moi, j'ai 62
ans. Dans 30 ans, j'ai 92 ans et je serai déjà mort sans la radiation.
D'accord, donc vous allez rester. Mais vous allez avoir du travail. Si tout le monde part, vous aurez du travail.
Mon travail actuel, c'est tout près de centrale. Je aide les gens qui cherchent les corps des gens qui ont été emportés par tsunami. Et c'est là que je travaille. Avec une pelleteuse.
Avec une pelleteuse, vous récupérez les corps.
Je cherche le corps, oui.
Vous en avez trouvé beaucoup ?
Plusieurs dizaines de corps.
Parce que c'est des corps qui non seulement sont des victimes du tsunami, mais qui en plus sont des dépouilles irradiées.
J'ai une protection, j'ai des vêtements. C'est pas aussi impeccable que les gens qui travaillent dans la centrale, mais quelque chose qui couvre entièrement mon corps.
Là, c'est juste un mois après. Vous trouvez encore des corps un mois après ? Là, il nous montre la carte, monsieur.
Là, je travaille à peu près au-delà de 10 km de la centre. Et parce qu'à l'intérieur de 10 km, on ne peut pas entrer. Donc, dans le périmètre de 10 km, c'est sûr qu'il y a encore des corps.
Ah, oui.
On n'a pas d'accès encore.
Parce que c'est trop dangereux pour vous.
C'est ça. Là, nous travaillons juste là, entre 10 km et 20 km, là. Mais on n'a pas l'ordre de travail. D'accord.
Et tous les soirs, vous revenez ici, c'est-à-dire à 40 km, là où nous sommes.
C'est ça.
Vous pensez que votre village va survivre ?
Par rapport à ce que j'ai vu, les villages dévastés, voilà, tout près de centrale, c'est rien. C'est pas dangereux.
C'est pas dangereux, mais ça continue de fumer, ça risque.
Parce que les radiations, ça se voit pas. Et ben c'est pas grave, ça se voit pas.
C'est pas grave, ça se voit pas.
Il rigole. Hein.
Comment vous vous appelez ?
Watanabe.
Watanabe-san, Monsieur Watanabe.
Arigato.
J'ai voulu venir avec Nathalie Kosciusko-Morizet et Éric Besson.
Nicolas Sarkozy.
En présence de votre président Henri Proglio.
3 mai 2011.
Après le drame de la centrale japonaise.
Gravelines.
Je voulais venir ici pour manifester la confiance de la France et des Français dans la filière nucléaire française. Je veux que les choses soient claires face au manque de sang-froid de tant d'observateurs qui, ne connaissant rien au nucléaire, font des amalgames et disent des choses qui ne sont pas respectueuses du travail de nos ingénieurs et de nos techniciens. En tant que chef de l'État, j'ai confiance dans la sécurité du parc nucléaire français. Je veux préciser les choses devant vous. Continuer dans le nucléaire, faire confiance au nucléaire, c'est continuer à investir dans le nucléaire. C'est pas le moratoire. Je voudrais d'ailleurs dire à ceux qui proposent le moratoire comme avenir que c'est une position incompréhensible. Soit on croit dans le nucléaire et dans sa sûreté, et dans ce cas-là, on continue à investir dans le nucléaire pour que des jeunes se forment, pour qu'on ait de nouvelles centrales et pour augmenter le niveau de sûreté. Soit on ne croit pas dans le nucléaire, et dans ce cas-là, on arrête le nucléaire et on ferme le nucléaire. Mais dire, on fait le moratoire, on garde nos 58 centrales, on ne bouge pas et on attend que le ciel nous tombe sur la tête, c'est le choix du passé, c'est le choix du Moyen-Âge. Et il faudrait que, parce qu'il y a eu un tsunami au Japon, on remette en cause ce qui fait la force de la France, ce qui fait la fierté de la France, ce qui fait l'indépendance de la France. Ce serait un choix irréfléchi et déraisonnable.
C'est une situation extraordinaire parce qu'on a tous les employés municipaux qui sont en train de regarder la télé où on annonce l'évacuation des villages alors qu'ils ont tous des uniformes et des masques blancs pour certains. Il y a les journalistes qui leur mettent des caméras sous le nez et des photographes qui essayent de photographier leur désarroi et leur stupeur. Mais la voix qu'on entend est en train d'annoncer pour eux la fin d'un monde. Là, on annonce précisément l'évacuation.
Liste de villages. Dit, je suis le Nubien, qu'évacuation n'est pas immédiate, mais en pensant le risque d'accumulation de poussière nucléaire radioactive, il serait préférable et conseillé d'évacuer petit à petit, surtout pour des femmes enceintes, nourrissons, des gens fragiles. Sont fortement conseillés de partir. Dès à présent, je conseille aux habitants de ces villages que je viens de lister de préparer le départ. Mais je vous répète, ce ne serait pas immédiatement. Je suis conscient des dégâts économiques. Mais pour la mesure de sécurité, la santé, je le répète, de préparer pour une évacuation. Surtout éviter la panique.
C'est ça, alors leur souci, c'est d'éviter la panique et de leur dire que c'est pas, on va faire ça petit à petit, etc.
Oui.
Ils donnent aucun ordre de grandeur de la radioactivité dans la
non.
coin.
Non.
Merci à tous, c'était un reportage avec Guy Van Til. La suite demain. Merci à Atsuko Shoda, notre traductrice. Montage Agnès Lebot et Marina Touillez. Merci à Miguel Quintana et Colin Kobayashi. Merci aux habitants d'Idaté. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, la-bas.org, la technique aujourd'hui, Michel Bézikian et Éric Morin, Koy Nguyen et Franck Alérère ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebotte. Et Marina attend vos messages sur le répondeur de la base J'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
Tu sais que je suis propriétaire d'un véhicule terrestre à deux roues.
Ah oui, une motobilette ou un cyclobilette.
Oui, et il est assuré à la Matmut.
Si c'est un triclobilette,
il serait aussi assuré à la Matmut.
Ça, c'est sûr, la Matmut, elle assure.
La Matmut, elle assure les billettes.
France Inter, partenaire de l'exposition Van Dongen jusqu'au 17 juillet au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Peintures, dessins, affiches et céramiques retracent le parcours parisien de ce fauve, anarchiste et mondain, de la vie de bohème à la période cocktail des années folles. Retrouvez l'exposition Van Dongen dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
À demain, 15h pour là-bas si j'y suis, les infos, Angélique Bouin, salut.
La sécheresse s'étend en France après un mois d'avril historiquement chaud. De nouvelles mesures de restriction d'eau viennent d'être décidées dans l'Indre et en Isère. Par endroits, le lavage des voitures est interdit en dehors des stations professionnelles, ainsi que l'arrosage des pelouses ou encore des potagers à certaines heures. Des mesures provisoires pour éviter une aggravation de la situation dans certaines nappes phréatiques. Une nouvelle opération de police contre des migrants tunisiens a eu lieu une nouvelle fois à l'aube à Nice. Ce matin, 150 gendarmes et policiers, accompagnés parfois de chiens, ont envoyé un foyer de travailleurs et interpellé 51 migrants. Ils y dormaient illégalement. Après avoir vérifié leurs papiers, la plupart devraient être renvoyés vers l'Italie. Les familles des victimes du drame de l'hormone de croissance ne cachent pas leur colère et leur amertume après la relaxe des deux derniers prévenus dans cette affaire. La cour d'appel de Paris a estimé qu'il n'y avait pas eu de faute. Les parents des enfants traités à l'hormone de croissance se disent écœurés. Ce traitement a fait 120 victimes depuis 1991. On ne sait pas encore si les associations des familles vont se pourvoir en cassation. Le sélectionneur des Bleus, Laurent Blanc, toujours sur la sellette. Les propos qu'il a tenus dans l'affaire des quotas de joueurs binationaux scandalisent notamment son ancien équipier Patrick Vieira. Dans le journal Le Monde, le footballeur demande implicitement sa tête. Ces gens-là ne peuvent pas rester à leur poste, dit-il en évoquant les participants à la réunion du mois de novembre où a été initiée cette idée de quotas. Un avis qui n'est pas partagé par Vicente et Lisa Razou. Ce serait un chaos encore plus grand si Laurent Blanc part, dit cet autre champion du monde en rappelant qu'il a redonné de l'allure à l'équipe de France avec, je cite, une équipe métissée. Rien n'arrête les forces de sécurité syriennes. On en franchit un nouveau palier dans la politique de la terreur avec l'arrestation de manifestants blessés dans les hôpitaux. Ils sont arrêtés puis interrogés sur les noms de ceux et celles qui participent à la révolte populaire. C'est ce qu'indique l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et puis une mise au point de Jean-Claude Trichet pour calmer les spéculations sur les marchés. Une restructuration de la dette grecque n'est pas à l'ordre du jour, a déclaré le président de la Banque Centrale Européenne. Toujours à l'étranger, c'est une épine dans le pied que les Américains ont laissée aux Pakistanais. Que faire de la maison qu'occupait Oussama Ben Laden depuis plusieurs années? Une bâtisse jusque-là anonyme, devenue désormais lieu d'attraction. Les curieux, venus parfois d'assez loin, ne cessent d'y défiler. Les autorités pakistanaises envisagent très sérieusement de la raser.
Tous les jours,
oui.
À partir de 11h...
Si on a des grosses fesses, on va vivre vieux.
Le fou du roi.
Il faut être maigre avec un gros cul.
Stéphane Bern.
C'est vrai pour les femmes.
Ah,
pour assister au prochain Fou du Roi en direct du studio 106 avec Pierre Moscovici et Enki Bilal, rendez-vous demain jeudi dès 10h devant la porte B de la Maison de Radio France.
Je suis pas du tout d'accord.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Fou du Roi.
Oui.
Tous les jours sur France Inter à partir de 11h. France Inter.
La différence.
Il est 16h03 et c'est l'heure de retrouver Frédéric Lodéon. Bonjour.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous, quelques nouveautés pour commencer. Jean-Chrétien Bach, le fils un tout petit peu délaissé du grand Jean-Sébastien, qui trouvait qu'il était un petit peu trop mondain, et que parce qu'il était un peu simple, peut-être dans sa tête, il ferait une très grande carrière. C'est une façon ironique de décrire le futur destin de son enfant. Et bien, évidemment, il n'a pas vécu tellement longtemps, Jean-Chrétien, Johann Christian, mais il a fait quand même une carrière superbe, aussi bien en Italie qu'en Angleterre, où surtout il a aidé le très très jeune Mozart, arrivé là à l'âge de 8 ans. Donc on lui doit un coup de chapeau, tout comme l'a fait David Zinman, qui nous propose avec beaucoup d'énergie plein de symphonies de Jean Chrétien. Voici par exemple un rondo en ré majeur tiré de la 4e symphonie opus 18. Jean-Chrétien Bach, 4e symphonie de l'opus 18 en ré majeur, symphonie flamboyante, on l'a entendu, virtuose, élégante aussi, interprétée par l'orchestre de chambre des Pays-Bas, dirigé par David Zinman. Mais ça n'est pas que ce personnage très très brillant et flamboyant, Jean-Chrétien, c'est aussi un personnage qui va déjà vers l'époque romantique, déjà sombre, passionné, parfois angoissé, ça s'entend, dans sa 6e symphonie de l'opus 6 en sol mineur, Allegro molto.